Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Justine Moussaou Kondé. Washington, Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à signer ce jeudi sous l'égide des États-Unis l'accord de paix paraphé en juin dernier. En conférence de presse, les porte-voix du gouvernement Patrick Muyaya et Tina Salama ont assuré que ce texte ne porte atteinte ni à la souveraineté ni aux ressources de la RDC. Au Nord Kivu, près de 10 000 déplacés vivent depuis un mois dans une grande détresse sur le site des Kikuku, territoire de Rutshuru. Une évaluation de l'ONG Sokolut, RDC alerte sur l'urgence d'une assistance humanitaire. Notre invité est Léon Kaya, directeur provincial de l'Institut national de statistiques Kassai Oriental. Il va commenter une enquête révélant que 60% des ménages sont en insécurité alimentaire avec des pics de plus de 70% dans plusieurs territoires. Bonjour à tous. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame vont, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, entériner ce jeudi à Washington l'accord de paix déjà paraphé le 27 juin dernier par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Cet accord de paix était l'objet d'une conférence de presse conjointe animée hier mercredi à Washington par le ministre de la Communication et des Médias et la porte-parole du chef de l'État. Patrick Muyaya et Tina Salama ont réaffirmé que cet accord de paix n'est pas une aliénation de la souveraineté de la RDC, moins encore de ses ressources naturelles. Le point avec Alain Hurung, envoyé spécial de Radio Okapi à Washington.
Pour la porte-parole du président Félix Tshisekedi, la RDC est à Washington pour trois accords. Tina Salama.
L'accord de paix RDC-Rwanda, un cadre d'intégration économique régionale, et ensuite, ce qui est très intéressant également pour nous, c'est ce partenariat stratégique RDC-USA sur les ressources, l'énergie et les infrastructures.
La paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs est une condition à l'intégration économique, a-t-elle martelé. En ce qui concerne le caractère non contraignant de l'accord de paix qui inquiète certains Congolais, Patrick Muyaya a répondu en ces termes.
Nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est prévue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain.
Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, ont appelé les Congolais à faire confiance au président Tshisekedi pour ramener la paix dans l'est de la RDC. De Washington DC, Alain Rung Mouchinj, Radio Okapi.
Alors que le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à entériner aujourd'hui, jeudi, un accord de paix et un cadre d'intégration économique régionale autour de Donald Trump, plus de 60 organisations de la société civile congolaise rappelle l'urgence d'un dialogue intercongolais inclusif. Dans une déclaration faite hier mercredi à Kinshasa, ces organisations estiment que sans un tel dialogue qui s'attaque aux causes profondes des conflits, donne la voix aux populations directement touchées et associe les autres acteurs armés, l'opposition non armée et la société civile. Les accords de Doha et de Washington resteront des avancées sur le papier sans garantir une paix réelle et durable en RDC. Et dans la région. On écoute Stewart Muindo, militant au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
L'impact sur le terrain risque de ne pas arriver pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cet accord n'implique pas l'ensemble d'acteurs armés qui sont actifs sur le terrain. Et deuxièmement, parce que l'accord n'est assorti d'aucune mesure de contrainte. Et troisièmement, parce que toutes les parties ont manifesté quand même une sorte de manque de volonté dans la mise en œuvre de cet accord. On a vu notamment les présidents rwandais et congolais, avant la signature de cet accord, tenir des propos qui allaient dans le sens de la remise en cause même des efforts pour le rétablissement effectif de la paix et la sécurité à l'est du Congo. Il faut imaginer un autre processus qui permette à l'ensemble d'acteurs armés, mais aussi les autres parties prenantes et surtout les populations victimes de la guerre, de pouvoir s'exprimer sur les solutions possibles à trouver. Et pour nous, cela ne peut se faire que dans un cadre national inclusif, et c'est notamment le dialogue inclusif et national qui peut se tenir sous l'égide de la CENCO et de l'ECC, qui ont notamment avancé dans le cadre du pacte social qu'ils proposent.
Rendons-nous au Nord-Kivu où plus de 1900 ménages déplacés, soit environ 10 000 personnes, vivent dans une situation de détresse depuis près d'un mois. Sur le site de Kikuku, situé dans le groupement Mutanda, c'est dans la chefferie de Buito, au territoire de Rutshuru. Ce chiffre ressort d'une évaluation menée par l'ONG locale Solidarité Communautaire de lutte contre le tribalisme, Sokolut, RDC en sigle, basée à Kerala, dont le rapport a été publié à l'issue d'une mission clôturée le week-end dernier. L'organisation alerte sur l'urgence d'une assistance humanitaire en faveur de ces populations. Bernard Danyangui pour les détails.
Selon ce rapport, ces déplacés sont arrivés par vagues successives depuis le 5 novembre 2025, fuyant les affrontements récurrents entre les miliciens Wazalendo et les rebelles de l'F-123 dans les villages environnants de Kikuku en territoire de Rutshuru, ainsi que dans les localités d'Iula, Kitunda et leurs environs en territoire voisin de Walikale. La majorité de ces familles sont actuellement hébergées dans des familles d'accueil, mais leurs conditions de vie demeurent extrêmement précaires. Ces nouveaux arrivants s'ajoutent à plus de 3600 ménages présents sur le même site depuis le 25 septembre dernier, en provenance des territoires de Walikale. Sokolut RDC souligne que la situation est aggravée par le fait que la population locale elle-même est constituée en grande partie de retournés. Par ailleurs, les civils sont privés d'accès à leurs champs situés autour des villages Kiala, Mirangi, Lusoa, Birundule et Yobora depuis le début des affrontements, ce qui accentue l'insécurité alimentaire. L'organisation lance un appel pressant à la communauté humanitaire pour une assistance d'urgence afin de répondre aux besoins immédiats de ces familles vulnérables.
En Ituri, le gouvernement congolais a apporté une assistance aux déplacés installés sur les sites de l'ISP et de Kigonze à Bunia. Plus de 300 tonnes de vivres et non-vivres ont été distribuées pour soulager les souffrances de ces familles vivant dans une grande précarité. Ces déplacés sont pour la plupart des ménages ayant fui les violences des groupes armés. Le récit de Jean-Claude Okidile.
Cette assistance comprend notamment de bâches, de la farine de semoule, de matelas, de haricots, mais aussi des kits ménagers essentiels, aussi de l'ISP. Le secrétaire des déplacés, Isaac Assimoué, remercie les autorités pour leurs efforts, tout en rappelant que la véritable solution reste le retour des populations dans leur village d'origine.
Je remercie le gouverneur de la province pour le plaidoyer qu'il nous a fait. Moi-même, je devais recommander que si le gouvernement puisse fournir un effort pour nous retourner dans notre milieu, là où on vivait très bien.
Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du ministre des Affaires sociales et humanitaires, Héritier Mpiana, affirme que ce geste, destiné à 4500 ménages, vise avant tout à apporter un peu de réconfort à ces familles éprouvées, mais aussi à réaffirmer la solidarité du gouvernement qui dit travailler pour mettre fin à leur calvaire.
On continue à fournir les efforts sur tous les plans et en même temps, on amène cette assistance pour leur dire qu'ils ont droit au réconfort, mais surtout à l'espoir. Un jour, on finira avec cette situation de la guerre qui nous est imposée.
Le gouverneur de province se dit toutefois préoccupé par l'infiltration dans certains sites d'individus identifiés comme des membres de groupes armés, une situation qui menace la sécurité même des déplacés qu'ils sont censés protéger. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Direction Mwanda, dans le Congo central, où la morgue de l'hôpital général de référence est presque saturée. Alerte lancée par le député provincial Jean Kimboko Ndombasi. Selon cet élu, la présence de nombreux corps abandonnés depuis plusieurs mois empêche désormais à cet établissement, le seul de la cité, d'accueillir de nouvelles dépouilles. Il alerte sur les graves conséquences sanitaires que pourrait engendrer cette situation. Plus de précisions avec Nana Purishmambo.
La morgue de l'hôpital général de référence de Mwanda est au bord de la saturation. Cette chambre de réfrigération, conçue pour accueillir 40 corps, en conserve actuellement plus de 30, abandonnés depuis plusieurs mois. selon les médecins chefs des zones de santé de Moanda, ces dépouilles sont majoritairement celles des personnes indigentes, des bébés, des malades mentaux ou encore des Congolais vivant en Angola qui arrivent à Moanda dans un état critique pour des soins médicaux. Cette accumulation empêche désormais d'autres familles en DE de bénéficier de ces services essentiels et place les personnels médicaux dans une situation difficile. Le député provincial Jean Kimbo Kondombasi lance un appel pour un désengorgement rapide de cette morgue afin d'éviter des conséquences sanitaires graves.
La morgue de l'hôpital de référence de Moanda est saturée. Donc il appartient à l'autorité et au niveau local de voir dans quelle mesure dégager la morgue. Et sinon ça sera très difficile pour la population du territoire de Moanda. C'est l'unique morgue. Même ceux qui sont dans la périphérie de Moanda, les corps descendent en masse dans cette morgue. Il faut qu'il y ait une solution.
De son côté, le docteur Philippe Nsuela, médecin chef des zones de santé de Moanda, affirme que la situation a déjà été signalée aux autorités locales et provinciales qui ont promis une inhumation urgente des corps abandonnés. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
De l'Ouest, rendons-nous au centre du pays, au Kasaï Oriental, célébration hier mercredi au club de la Miba à Mbujimayi de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial des Finances. Prévue en principe chaque 1er décembre, cette manifestation a été repoussée à hier mercredi 3 décembre par le programme national multisectoriel de lutte contre le Sida, PNMLS, Kasaï Oriental. Esther Ndalafina.
Le thème retenu cette année est une riposte équitable pour mettre fin au sida en RDC d'ici 2030. Docteur Mathieu Chabuila, représentant du chef de division provinciale de la santé, a donné quelques statistiques du VIH au Kasaï oriental.
Pour l'année 2025, nous sommes arrivés à dépister 54 730 malades. Au S1 2024, on a eu un chiffre plus important.
Pour éviter la propagation du VIH, Docteur Albert Mutombo, secrétaire exécutif du PNMLS Kasaï Oriental, a indiqué qu'il faut un dépistage des femmes.
Nous nous sommes engagés à éliminer aussi le sida chez l'enfant. Et cela est possible grâce au dépistage des mamans, à la prévention de la transmission et même à l'accès universel aux soins.
Le ministre provincial des Finances, représentant du gouverneur de province, a demandé à toutes les couches de la population de faire de la lutte contre le sida une priorité.
Nous pouvons atteindre l'objectif mondial de mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030.
Signalons que le message du secrétaire général de l'ONU a été lu par la chef de l'antenne OMS Kasaï Oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
En Ituri, début mardi de la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants, dont les chèvres et moutons. Grâce à l'intervention de l'autorité provinciale et de certains partenaires, dont l'ONG internationale Trocker, plus de 40 000 doses de vaccins ont été rendues disponibles pour lutter contre cette maladie qui a déjà causé la mort de plusieurs centaines de chèvres et moutons depuis 4 ans. Le point avec Martial Kizabiamongo.
Cette campagne de vaccination cible principalement les zones les plus affectées par cette épidémie qui a déjà tué plus de 450 bêtes, notamment dans les territoires de Mahagui, Arou et Irumu. Selon les chefs de division provinciale de l'agriculture et élevage, c'est après plusieurs plaidoyers auprès des autorités et des partenaires internationaux du gouvernement que la province vient de disponibiliser 4000 doses de vaccins pour organiser la riposte contre cette épidémie. Fiston Kabassi c'est que s'allie également l'intervention de l'ONG internationale Trocker qui appuie cette campagne avec 10 000 doses de vaccins. Optimiste, les chefs de division provinciale de l'agriculture et élevage affirment que cette assistance va stabiliser la situation mais aussi booster l'élevage en Ituri afin de préserver la sécurité alimentaire et l'économie locale. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Jeunesse et masculinité positive, tel est le thème d'une table ronde des jeunes tenue mardi à Kinshasa sur l'égalité des sexes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Objectif, promouvoir une masculinité positive fondée sur le respect et la non-violence. Cette table ronde a été organisée par l'Association des jeunes pour le développement et la paix en partenariat avec la section genre de la MONUSCO. Reportage, La Kinzao.
L'activité a rassemblé des jeunes regroupés au sein des différentes associations. En ce mode de circonstances, le coordinateur de l'association des jeunes pour le développement et la paix, David Panou, a rappelé aux jeunes leur rôle clé dans la promotion de la masculinité positive.
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de l'agenda jeunesse, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît les rôles déterminants des jeunes dans la protection des droits humains. Chers jeunes, promouvoir la masculinité positive, c'est nous considérer non pas comme spectateurs, encore moins comme porteurs de problèmes, mais comme acteurs de changement.
De son côté, Alain Roubenga de la section genre de la MONUSCO a appelé les jeunes à éviter certains comportements qui ont tendance à dénigrer les femmes et les jeunes filles.
Promouvoir la masculinité positive, c'est d'abord le dialogue. Il faut vraiment éviter l'arrogance et avoir toujours à l'esprit que les femmes et les jeunes filles ont aussi des choses à proposer et que nous pouvons trouver des solutions ensemble à travers le dialogue.
Alors que cette activité se tient dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre.
Actualité internationale.
Au Sénégal, une équipe de plongeurs enquête sur des soupçons d'explosion contre un pétrolier venant de Russie. Le port autonome de Dakar a annoncé hier mercredi avoir dépêché des plongeurs des mineurs pour inspecter le pétrolier Mersin. Ce bateau, immobilisé à 20 km des côtes sénégalaises, transporte 39 000 tonnes de carburant et fait craindre une marée noire depuis qu'une faille a été repérée en salle des machines jeudi dernier. Selon l'armateur turc du navire, ce dernier a été touché par des explosions externes, ce qui pourrait mener vers une piste criminelle.
L'invité.
Notre invité est Léon Kaya, directeur provincial de l'Institut national de statistique au Kassaï oriental. Selon une enquête menée par l'INS avec l'appui du PAM, 60% des ménages de la province souffrent d'insécurité alimentaire. Les résultats publiés mardi à Mbujimayi révèlent une situation particulièrement préoccupante dans les territoires de Kabeakamwanga, Miabi et Lupatapata où plus de 70% des ménages sont touchés. Léon Kaya s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, Monsieur Léon Kaya.
Bonjour, Maman Esther.
L'Institut national des statistiques, en collaboration avec le PAM, vous avez organisé un atelier de restitution des résultats IPC, 24e cycle. Qu'est-ce qu'on entend par IPC?
IPC, c'est un cadre intégré d'analyse de la sécurité alimentaire. Pratiquement, nous sommes d'abord dans la restitution des résultats de l'enquête EFSA. Donc, c'est une enquête approfondie sur la sécurité alimentaire qui se passe chaque année au niveau de chez nous.
En quoi consiste cette enquête?
Cette enquête consiste à pouvoir actualiser les données, les informations par rapport à la sécurité alimentaire d'une année à l'autre.
Où s'effectue cette enquête?
Cette enquête s'est déroulée dans les 5 territoires et la ville de Mbujimayi, donc dans tout l'espace de Kassaï oriental.
C'était pour combien de temps?
On a passé 21 jours sur terrain pour collecter ces informations dans tous les territoires et la ville de Mbujimayi.
Brièvement, quels sont les résultats de cette enquête?
Les résultats que nous avons obtenus nous montrent que la province elle-même, elle est vraiment dans la situation d'insécurité alimentaire. Il y a des fortes proportions de ménages qui ont un score de consommation alimentaire pauvre ou limite. Il y a de fortes proportions de ménages qui utilisent des stratégies pour survivre, même des stratégies liées aux moyens d'existence, vendant leurs biens, donc l'épuisement des biens de ménage, tout ça pour seulement manger.
Et quelles sont les causes réelles de ces facteurs-là?
Les principales causes, il y a d'abord une faible production, parce qu'on cultive des petits espaces sans engrais, sans semences améliorées. L'agriculture est reléguée aux femmes. La main-d'œuvre active va vers l'exploitation artisanale de diamants qui ne rapporte pas grand-chose, parce qu'après des années, on n'a jamais progressé avec ça. Et alors, les petites superficies qui sont cultivées par les femmes, le rapport est faible pour subvenir à l'alimentation et subvenir à satisfaire d'autres besoins qui ne sont pas alimentaires.
Si la terre existe, pourquoi ces ménages ne l'exploitent pas?
Ces ménages n'exploitent pas. D'abord, ils voudraient trouver un enrichissement facile. C'est comme, par exemple, il va vers l'exploitation du diamant. L'exploitation facile, c'est quand il laisse le ménage, il va pousser le vélo pour prendre les marchandises des autres. Pendant qu'il laisse un travail de terre qui peut lui rapporter beaucoup plus. Donc, c'est un problème de négligence, de mentalité au niveau de nos populations. Naturellement, le gouvernement doit sensibiliser, dire que la réalité, la richesse se trouve dans la terre. terre là-bas avec l'agriculture et non pas dans les autres travaux qui ne peuvent pas rapporter grand-chose.
Quels sont les signes qui montrent qu'un ménage est en insécurité alimentaire?
Il y a d'abord le score de consommation alimentaire. S'il est pauvre, quand vous voyez le ménage commence à mettre en pratique des stratégies pour pouvoir manger, soit vendre des soirs, soit envoyer les enfants ou la famille aller manger chez le cousin, aller manger chez la grand-mère. Là, ce sont des signes qui montrent déjà qu'il y a un problème de sécurité alimentaire dans ces ménages-là.
Vous avez dit que le Kassai oriental a une pauvreté croissante. Elle est évaluée à quel taux?
Oui, là, d'après les résultats de EJODD qui s'est passé en 2020, on a cumulé avec les résultats de ND3 qui sont les mêmes types. Alors, on a vu que l'incidence de la pauvreté au niveau de la province est passée de 68 à 72 en 2012 jusqu'à atteindre 78% en 2020. Donc, elle est croissante, ça ne baisse pas.
Quel est le profil des ménages en insécurité alimentaire?
Les ménages qui sont dirigés par les chefs de ménage féminins sont plus en insécurité alimentaire que les ménages dirigés par leurs cousins hommes. Et puis, les ménages qui sont dirigés par le chef de ménage des niveaux inférieurs ou sans niveau d'instruction sont plus en insécurité alimentaire que ceux des secondaires ou des supérieurs. Et il y a les ménages de grande taille. Bon, ici chez nous, vous savez que nous avons toujours beaucoup d'enfants. Alors, ces ménages de grande taille souffrent beaucoup plus en insécurité alimentaire que les ménages de petite taille.
Alors, comment lutter contre l'insécurité alimentaire?
Il faut des programmes qui peuvent aider à pouvoir sauver les vies et il faut aussi des programmes tels qu'un programme nutrition et un programme sécurité alimentaire. Donc des programmes combinés, sécurité alimentaire et nutrition ou quoi là, qui peuvent améliorer la situation nutritionnelle, sauver les vies et qui peuvent donner la résilience et donner même la capacité des ménages à pouvoir accroître leurs revenus.
Monsieur Léon Kaya, merci.
Merci beaucoup, Maman Esther.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Polly Mousalia et Alain Goy qui était à la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet radiocapi.net.